Écoute. Écoute.
Bonjour, aujourd'hui une émission un peu spéciale en visio parce que notre invité est un peu loin. J'ai le plaisir d'accueillir Achille Mbembe en direct de l'Afrique du Sud pour avoir le plaisir d'échanger avec lui et puis aussi à l'occasion de la publication de ce livre coécrit avec Rémy Rioux pour Un monde en commun. Bonjour Achille.
Bonjour Pascal.
Alors, dans ce livre, quelle est l'idée quand même, parce que vous êtes deux personnages très différents, entre un responsable officiel de la République française et un intellectuel considéré comme contestataire africain? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir avoir cet échange?
En fait, ça fait un bon moment, je discute avec Rémy Rioux. Il est venu en Afrique du Sud où je vis dès sa nomination à la tête de l'AFD. À l'époque, il était en train de réfléchir à la façon de rendre cette institution plus réceptive, disons, aux voix de ceux qu'il appelle les autres. Et donc, on avait commencé cette conversation. Moi, j'étais à l'époque très intéressé par les efforts effectivement faits dans cette institution pour repenser le développement. Et notre échange s'est poursuivi au moment où j'ai accepté d'accompagner le nouveau sommet Afrique-France, dont le thème, vous vous en souvenez, était la refondation des rapports entre l'Afrique et la France.
Et oui, et votre présence a été, et le rapport que vous avez remis a été une surprise pour vous.
Alors oui, effectivement, j'ai remis un rapport au président de la République française au terme de 65 tables rondes, colloques, séminaires dans 12 pays africains auxquels ont participé quelques milliers de personnes. Et ce rapport contient une série de recommandations, 13 en fait, qui visent à relancer une dynamique de liens nouveaux en ce pays et notre continent.
Alors, il y a effectivement, on a eu au cours de la campagne électorale, même s'il y a eu peu de débats de la résonance internationale, il y a quand même parmi les gens qui s'occupent de cela une réflexion qui est lancée avec le sentiment que l'image de la France en Afrique s'est dégradée, qu'il y a une perte d'influence, de position de la France en Afrique et que, sans parler de divorce, en tous les cas, les liens sont moins nourris, moins profonds comparément, que l'Afrique se détourne un peu de la France, qu'il y a une sorte de déception de l'Afrique vis-à-vis de la France. Est-ce que vous confirmez ou quel est votre diagnostic sur ce sujet?
Disons, moi, ce qui me frappe, c'est la sorte de fatigue intellectuelle. C'est ce qui m'inquiète le plus. Parce qu'à vrai dire, et s'agissant des évolutions à long terme, des dynamiques en profondeur qui travaillent le continent, en termes de ce qu'il est possible de faire, j'ai l'impression que la France est à court d'idées. Elle est à court d'idées et que, faute d'un réarmement intellectuel, elle va être à la traîne des évolutions de long terme. C'est ce qui me frappe et m'inquiète.
Alors, comment expliquer cela? Parce que la France se targue de façon parfois excessive d'être un pays où on aime débattre, on aime les idées. Comment expliquer cette panne sèche d'idées de la part de la France et des Français?
Mais je pense qu'il y a des raisons institutionnelles. Il ne s'agit pas seulement des légendaires pesanteurs bureaucratiques, des oppositions sourdes, des résistances passives au sein même de la technostructure. Il s'agit aussi de l'inadaptation des outils, des dispositifs institutionnels, des conflits de tutelle nécessitant des arbitrages qui tarde à venir. Il y a tout ça. Mais il y a surtout cet extraordinaire affaissement en termes de capacité d'analyse et de prévision aussi bien dans le champ civil que dans le domaine militaire. Et donc, cet affaissement intellectuel, si on n'y met pas fin, la France ne va pas être capable de répondre de façon dynamique aux transformations en cours sur le continent, transformations qui ne l'attendent pas. Bien entendu, les Africains vont continuer d'aller de l'avant, sans elle s'il le faut, avec elle, mais dans un rapport renouvelé, faut le souhaiter.
Et il y a aussi, et vous l'évoquez dans votre échange avec Rémy Rioux, et c'est aussi la personne qui a conduit les débats, Séverine Kodjo-Granvaux qui en parle, il y a quand même, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les débats que l'on a en France, qui tournent beaucoup autour du rejet de l'étranger, du rejet des migrants, du rejet des réfugiés et du rejet de l'islam, qu'il y a une sorte quand même de radicalisation à droite du discours français et qui très souvent est un discours d'exclusion de l'autre et vécu en Afrique et est en grande partie responsable de cette distanciation.
Oui, non, c'est le cas. Et vous faites bien de le rappeler. Et de ce point de vue, donc, il y a quelques chantiers qui, à mon avis, devraient être prioritaires. En premier lieu, je pense qu'il est urgent de se démarquer, que la France se démarque visiblement de la diplomatie d'influence, celle-là qui ne jure qu'en termes de conquête des parts de marché ou de projection de la puissance militaire. Pourquoi elle doit se démarquer de cette vision de la diplomatie? Parce que, à tort ou à raison, cette vision est perçue en Afrique comme un pur jeu à somme nulle, synonyme de colonialisme dérivé. Et dans ce calcul cynique, gagnants et perdants sont connus d'avance et l'Afrique est toujours perdante. Il faut donc qu'elle se démarque de cela parce que les intérêts français, l'influence française en Afrique seront bien mieux garantis si, au code de la symétrie, on substitue, je crois, une approche en termes de mutualisation des intérêts. Et donc, il faut passer de la diplomatie d'influence et de la projection de puissance à une diplomatie du vivant. Et c'est un peu l'argument que Rémy et moi, on défend dans le petit livre.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction en même temps, cher au président Macron, a-t-il pas des limites de, en même temps, s'adresser à un intellectuel reconnu qui est en phase avec la jeunesse, en phase avec les mouvements un peu qui bougent en Afrique, et se rendre aux obsèques d'Idriss Déby ou de conserver des liens avec des régimes qui sont là depuis 30 ou 40 ans et qui ne semblent pas représenter les forces nouvelles vives du pays et du continent.
Oui, moi je pense que de tous les dangers qui, sur le front africain, guettent Emmanuel Macron, surtout à l'orée de son second mandat, le plus grave est celui de ce que l'on pourrait appeler la gorbatchevisation. Alors, c'est quoi la gorbatchevisation? C'est un terme qui, de mon point de vue, renvoie à la propension du réformateur à recourir à une flopée de demi-mesures, là où un système manifestement sclérosé est à bout de souffle. Et la situation historique exige le recours à un Big Bang. Et du coup, donc, s'ensuit une perte de contrôle graduel, mais irrémédiable, irréversible, perte de contrôle des événements, une reprise en main du processus inachevé de transformation au profit des forces du raidissement. C'est le danger qui guette, disons, Emmanuel Macron.
C'est un concept extrêmement intéressant parce que, donc, si je vous suis bien, Gorbatchev coincé un peu entre le désir de réforme et les clans conservateurs, les appareils de la structure, n'est pas allé assez loin pour bouger le système, et du coup, il a été emporté. Et c'est par volonté de maintenir un peu un équilibre entre les conservateurs et les rénovateurs qu'il aurait été emporté.
C'est le danger du en même temps.
D'accord. Et donc, vous pensez, ce qui n'est pas très optimiste pour la présence française en Afrique, que si rien n'est fait, le danger de l'organisation, c'est l'implosion finalement de la présence française en Afrique à l'image de l'implosion de l'Union soviétique.
En fait, le en même temps appliquer l'Afrique est une option plus ou moins défaitiste. Et donc, il faut sortir de cette perspective défaitiste. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui a été accompli au cours des 5 dernières années, il y a beaucoup de signes de changement. Ils sont là, les signes de changement, mais ils sont à la surface, de manière éparse et mis bout à bout. Je crois qu'ils ne font pour le moment ni mouvement ni structure, mais ils dessinent un arc. Et donc, ce dans nous qui sommes impliqués dans ce corps à corps, essaye de pousser l'arc dans une certaine direction. Mais je pense que, au fond, pour répondre à votre question, la refondation des relations entre l'Afrique et la France relève d'un très long parcours. Lorsqu'on tient en compte en particulier les autres indices que vous évoquiez tout à l'heure, la relative volonté de maintien du statu quo, le travail en sous-main des forces centrifuges à toutes les échelles. Certaines sont culturelles et relèvent d'un vieil habitus colonial difficile à extirper, mais sont des forces systémiques.
Et en fait, là, Emmanuel Macron a été réélu, c'est son second et, selon la Constitution, dernier mandat. Et contrairement, enfin là, on ne croit pas qu'il va changer la Constitution pour en faire un troisième. Donc, il pourrait dire, normalement, ce que joue son mandat, c'est la place dans l'histoire. Est-ce que, si vous aviez un pari à faire, est-ce que vous pensez qu'il aura la force, l'énergie, le courage, la volonté effectivement, d'arrêter avec lui en même temps et de se dégorbatchéviser et d'aller jusqu'au bout dans, finalement, le mouvement, ou est-ce qu'il sera rattrapé par le système, les pesanteurs, les prudences, les attentions, etc. Quel est votre... Et est-ce que vous-même, est-ce que vous a entendu quelle était sa réaction quand vous lui avez proposé un peu ce... une sorte de grand bond en avant pour continuer dans la métaphore politique?
Ah non, il a l'énergie. Il a beaucoup d'énergie en réalité. Il a l'intelligence pour ce qui est de l'Afrique, nettement. Il sait qu'est-ce qui est en jeu. Il est conscient du fait qu'un cycle historique arrive à sa fin. Il faut en sortir et mettre en place les piliers d'une autre dispensation. On est donc un peu dans un moment de transition. Il y a plusieurs forces en jeu. Disons, les orientations qu'il veut mettre en œuvre peuvent être contrariées par ces forces. Et donc, je pense que le deuxième mandat, il va l'utiliser pour essayer de cimenter un héritage historique. Quel en sera le contenu, je n'en sais pas plus que vous. Mais il a quand même accepté de mettre en œuvre certaines propositions de mon rapport. Je pense en particulier au fonds d'innovation et de soutien à la démocratie en Afrique. Pour la première fois, ce fonds sera mis en place. Il a accepté de construire à Paris la Maison des mondes africains. On est en train de travailler sur d'autres propositions. La mission de préfiguration de la Maison, elle a remis son rapport. Et donc, pour ces deux premières propositions, je pense qu'on atteindra la vitesse de croisière sans doute après les élections parlementaires et la mise en place ou le renouvellement des nouvelles équipes. Et donc, ce n'est pas l'immobilisme, mais il faut l'encourager, il faut que d'autres forces rentrent dans le champ de bataille et qu'on fasse valoir, disons, des propositions qui permettent d'aller de l'avant.
Est-ce que vous avez prévu un suivi de vos propositions? C'est-à-dire, vous avez donc les 13 propositions, est-ce que vous avez des rendez-vous pour dire sur celle-ci on a avancé? Est-ce que vous allez le faire vous ou est-ce qu'il y a un appareil qui est prévu pour faire une sorte de comité de suivi finalement de votre travail?
Oui, Monsieur Benoît Verdot en est le secrétaire général. C'est le secrétaire général du sommet. Il est le responsable du suivi des recommandations du sommet. La cellule africaine à l'Élysée, elle y est. J'y participe moi-même. Pour ce qui est du calendrier, Monsieur Luc Briard a remis son rapport de préfiguration pour ce qui est de la Maison des mondes africains. Il l'a remis au président de la République peu avant les élections. Je peux dire que le fonds de soutien à l'innovation pour la démocratie sera mis en route le 8 octobre prochain, un an exactement après le sommet de Montpellier. Et D'accord. que vraisemblablement, il sera basé en Afrique du Sud. Il s'occupera dans une première étape, c'est-à-dire 2023 à 2025, de proposer des parcours pédagogiques ciblés à des acteurs africains d'ores et déjà mobilisés dans le champ de la démocratisation du continent. Il s'occupera en fait de mettre en place les conditions de l'animation de l'intelligence collective en Afrique. Je crois que le travail sur la Maison des mondes africains atteindra son point de croisière après les élections, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Passons au conflit en Ukraine qui agite beaucoup les esprits en Europe, mais également dans le monde. Beaucoup ont été surpris des réactions africaines. Tout d'un coup, les Occidentaux se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas automatiquement suivis par le reste du monde. On est quelques-uns ici à dire que ça fait longtemps que le monde occidental a perdu un peu la puissance, mais qu'il ne l'a peut-être pas encore tout à fait réalisé. Est-ce que vous pouvez nous donner votre perception des réactions africaines à ce conflit?
Mais beaucoup d'Africains ont estimé que c'était un conflit européen, pour le dire vite. Et ils ont estimé que la meilleure attitude de leur part était d'adopter une position de neutralité. Et la plupart des votes à l'ONU tendent à indiquer effectivement que cette position de neutralité est la position dominante en Afrique. Sous-tendant cette position officielle de neutralité, il y a quand même une espèce de fatigue par rapport à ce qui est perçu par les opinions publiques africaines comme la politique des deux poids, deux mesures que pratiquent l'Occident ou l'Europe, les États-Unis, l'OTAN, depuis très longtemps. Alors, les exemples ne manquent pas à ce sujet. S'y ajoute effectivement le traitement qui a été infligé aux étudiants africains en particulier lors de l'évacuation de l'Ukraine, la sorte de tri racial qui vient allumer effectivement les vieux contentieux. Et du coup, disons, l'atmosphère est plutôt là. au panspilatisme, je dirais.
Et puis, il y a aussi le fait que les pays africains n'ont plus envie de suivre de façon automatique les préconisations des pays occidentaux. Il y a quand même... Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une renaissance du Sud ? Quand on voit la carte des pays... Alors, il y a beaucoup de pays qui ont condamné l'agression de la Russie, mais il y en a moins qui ont pris des sanctions. Les sanctions, elles sont seulement occidentales. Donc, il y a, est-ce que vous voyez une nouvelle fracture Nord-Sud à l'égard de ce conflit ?
Ah oui, cette fracture, elle est là, en sous-main. Je lisais ce matin les déclarations de Lula,
oui.
Qui était le président du Brésil et qui est candidat aux prochaines élections. Il est apparemment en très bonne position. Il l'explique de façon très simple, mais très directe. Il explique que l'Occident, l'Europe, les États-Unis auraient mieux fait de encourager les négociations en Ukraine et la Russie, mais ils auraient choisi, de l'avis de Lula, de fomenter la guerre, en particulier en ne proclamant pas dès le début que l'Ukraine ne ferait pas partie justement de l'OTAN. Et donc, il y a là, disons, des visions géopolitiques tout à fait différentes, avec un Sud qui rechigne à être le porteur d'eau, disons, d'un Nord qui manipule, disons, les principes et les valeurs à sa convenance.
Et les réactions au Nord, c'est de dire que ils ont des valeurs qui ne sont pas partagées par les autres. Et donc, est-ce que vous sentez un peu ce repli intellectuel que vous avez évoqué au début de l'entretien, finalement ?
Non, il y a un affaissement. Ce n'est pas seulement un repli. C'est un affaissement, c'est une chute brutale dans la capacité d'analyse, de compréhension d'un monde de plus en plus petit. Mais de plus en plus balkanisé. Donc, cette balkanisation théorique, conceptuelle, forgée au fer de schémas mentaux d'origine coloniale et raciale, je crois que c'est pas aboli. Tant que ça perdure, effectivement, on habitera peut-être le même monde, mais on le percevra à partir de positions très différentes et très conflictuel.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en fait, que le monde, effectivement, comme vous l'avez dit, de plus en plus petit, mais que des fois, les moyens de comprendre l'autre ne sont pas à la hauteur de l'interdépendance? On est de plus en plus en interrelation, mais on n'a pas le sentiment réellement qu'il est plus facile de faire des anathèmes, de faire des grandes déclarations n'importe pièce, que de réellement comprendre l'autre.
Donc, ça fait partie du, disons, d'un nouveau régime cognitif, si vous voulez, qui fait que plus nous disposons des moyens de la connaissance, et on n'en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, plus paradoxalement, disons, l'ignorance assumée s'étend. Alors, on va accuser les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, d'avoir amplifié cette évolution. Mais toujours est-il que c'est la raison même, la faculté de la raison qu'il faut réformer. On a besoin d'une réforme de la raison en tant que faculté. Et tant que cette réforme n'aura pas eu lieu, je crois que l'escalade technologique à laquelle on assiste aboutira sans doute nécessairement à des formes d'abrutissement organisé que nous observons très bien ces jours-ci.
Alors, dans ce livre que je remontre Pour un monde en commun, coécrit avec Rémy Rioux, aux éditions Actes Sud, vous insistez l'un et l'autre sur la notion de réconciliation, qui était le titre du précédent livre de Rémy Rioux, et que vous reprenez à votre compte, dont vous dites effectivement que c'est un terme qui est riche de perspectives à la fois politiques et humaines.
Ah oui, c'est un terme très riche. Moi, la chance d'avoir vécu en Afrique du Sud au cours des 20 dernières années, à un moment justement où la thématique de la réconciliation faisait partie du discours politique national et où ce discours se traduisait effectivement par des initiatives, des expériences concrètes de réconciliation. Je crois que c'est un terme qu'il faut approfondir, explorer davantage, à un moment où le grand défi auquel est confrontée notre planète, c'est quand même le défi de maintenir la vie face aux forces d'entropie. C'est la durabilité de la vie. Durabilité de la vie à condition, effectivement, que nous organisions cette réconciliation en espèces. Espèces vivantes, espèces humaines, espèces animales, ainsi de suite. Sans cette réconciliation entre les espèces et cet investissement dans le vivant, la vie ne sera pas possible, du moins sur la planète. C'est ça quand même l'enjeu de ce siècle. Et donc, la réflexion autour de la réconciliation, elle va de pair avec tout le reste. La réconciliation, mais aussi la réparation, mais aussi la restitution, mais aussi d'autres manières nouvelles de penser la question de la justice universelle. C'est ce qui donne à ce concept, je crois, son pesant d'actualité à un moment où, comme vous le soulignez vous-même, on vit dans un monde de plus en plus petit, mais de plus en plus balkanisé.
On arrive à l'issue de cet entretien dont je vous remercie, Achim Mbembe. Alors, vous dites, vous avez quitté le Cameroun très jeune, vous n'êtes pas nationaliste, mais en même temps, quand l'équipe nationale de football joue, quand on joue les hymnes, vous avouez que vous avez un sentiment particulier. Votre équipe nationale est qualifiée pour la Coupe du Monde, donc vous allez bientôt vibrer aux exploits de l'équipe du Cameroun.
Ah oui, on a un nouveau président de la Fédération de football qui lui-même, c'est M. Samuel Eto'o, dont on connaît.
Donc, c'est le football au footballeur, là.
Tout à fait, la carrière, le nouvel entraîneur, lui aussi. Un processus d'assainissement est en cours et on espère que les Lions indomptables vont, porter les couleurs du continent de façon digne au Qatar.
Comme ils l'ont déjà fait dans le passé. Merci, Achim Mbembe, pour cet entretien et à très bientôt.
Et merci beaucoup, Pascal.